From the conference center at Temple Square in
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Dieter F. Uchtdorf,
deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this afternoon to the fifth and concluding.
Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Uchtdorf, de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, par Internet ou satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Linda Margetts et Bunny Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant pour la terre et sa beauté. Ensuite, C. Scott Groh, des 70, fera la prière d'ouverture.
Of the earth, for the beauty of the sun. Our Heavenly Father,
Père Céleste, nous, tes fils et tes filles qui avons fait alliance avec toi dans le monde, d'une manière unie, nous baissons la tête devant toi au début de cette dernière session de la conférence générale. Père, nous te remercions du privilège que nous avons de participer à cette conférence historique, spécialement à cette assemblée solennelle. Nous avons eu le privilège de soutenir ton prophète choisi, président Thomas S. Monson. Père, nous l'aimons. Et nous aimons ses conseillers, président Eyring et président Uchtdorf, et chaque membre du Collège des douze apôtres, que nous soutenons tous comme prophètes, voyants et révélateurs. Père, nous te remercions pour le prophète Joseph Smith, pour son humilité et sa foi quand il s'approchait de toi dans le bosquet sacré en prière et qu'il t'a vu avec ton Fils unique pour ouvrir la dernière dispensation de la plénitude des temps. Nous sommes reconnaissants pour les clés de la prêtrise qui ont été rétablies sur la terre pour gouverner et administrer ton royaume. Nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire et pour sa résurrection glorieuse. Père, alors que nous commençons cette session, s'il te plaît, déverse ton esprit sur ceux qui vont nous parler afin qu'ils puissent et que nous puissions, d'une manière unie, ressentir la puissance dans notre cœur et dans notre âme et avoir la conviction d'avoir ton évangile sur cette terre. Bénis-nous lorsque nous rentrerons chez nous après cette conférence, que nous puissions nous souvenir de ce qui a été dit et que nous serons fidèles à nos alliances. De tout cela, nous te le prions en te remerciant et en t'exprimant notre amour au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now sing Call to Serve.
Le chœur va maintenant chanter Appelé à servir. Jeffrey R. Holland et David A. Bednar du Collège des douze apôtres nous adresserons ensuite la parole. Après leur discours, nous entendrons W. Craig Swick des 70.
Serve Him and the King of Glory, chosen.
President Monson, may I claim
President Monson, si je peux me permettre un moment privilégié, en tant que premier des frères invité à parler ensuite de votre message particulier à l'église ce matin, puis-je dire quelque chose au nom de tous mes frères, des autorités générales et en fait au nom de toute l'église? De tous les privilèges que nous avons eus pendant cette conférence historique, en incluant la participation à l'Assemblée solennelle hier, où nous avons pu vous soutenir en tant que prophète, voyant et révélateur, je ne peux m'empêcher de ressentir que le moment le plus important que nous avons tous eu a été de d'être témoin personnel du manteau prophétique et sacré qui est venu sur vos épaules, comme s'il était mis par les mains des anges eux-mêmes. Ceux d'assemblée de la conférence de prêtrise d'hier et tous ceux qui étaient présents aux retransmissions mondiales ce matin ont été témoins oculaires de cet événement. De tous ces participants, je vous exprime notre gratitude d'un tel moment. Et je le dis avec beaucoup d'amour pour Président Monson et particulièrement pour notre Père Céleste, pour cette merveilleuse opportunité qui a été donnée d'être témoin oculaire. Merci. À la conférence générale d'octobre dernier, j'ai dit qu'il y avait deux raisons principales pour lesquelles l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours est accusée, à tort, de ne pas être chrétienne. À ce moment, j'ai parlé de l'une de ces questions doctrinales, basées sur les Écritures, notre vision de la divinité. Aujourd'hui, je vais parler de l'autre point de doctrine important qui caractérise notre foi, mais qui donne du souci à certaines personnes, à savoir l'affirmation audacieuse que Dieu continue à parler et à se révéler, révélation qui commande un canon ouvert d'écriture. Certains chrétiens, en grande partie en raison de leur amour véritable de la Bible, ont déclaré qu'il ne peut y avoir plus d'écriture autorisée en plus de la Bible. Déclarant ainsi le canon des Écritures est fermé, nos amis de certaines autres religions ont fermé la porte à des paroles divines qui nous sont, dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, très chères. Le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances, la Perle de Grand Prix et la révélation continue reçue par les prophètes et apôtres ou un de Dieu. N'imputant aucune intention mauvaise aux gens qui adoptent cette position, nous respectons respectueusement, mais résolument, cette définition non scripturaire du véritable christianisme. L'un des arguments souvent utilisés pour défendre la clôture du canon des Écritures est le passage du Nouveau Testament se trouvant dans Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mais les spécialistes de la Bible s'accordent pratiquement tous à dire que ce verset s'applique seulement au livre de l'Apocalypse, non à l'ensemble de la Bible. Quasiment tous les spécialistes de notre époque reconnaissent qu'un certain nombre de livres du Nouveau Testament ont été certainement écrits après que Jean a reçu sa révélation sur l'île de Patmos. Dans cette catégorie se trouvent au moins les livres 1 et 2 de Pierre, Jude, les trois épîtres de Jean, et probablement tout l'évangile de Jean lui-même. Mais il y a une raison plus simple à la raison pour laquelle ce passage du dernier livre du Nouveau Testament actuel ne peut pas s'appliquer à l'ensemble de la Bible. C'est parce que l'ensemble de la Bible, telle que nous la connaissons, une collection de textes reliés en un seul volume, n'existait pas quand ce verset a été écrit. Par exemple, pendant des siècles après que Jean a écrit ce verset, les livres du Nouveau Testament ont circulé individuellement ou peut-être sous la forme de quelques textes regroupés, mais presque jamais en tant qu'une collection complète. De l'ensemble des 5366 manuscrits du Nouveau Testament grec connu, seuls 35 contiennent l'ensemble du Nouveau Testament tel que nous le connaissons, et 34 ont été compilés après l'an 1000. En fait, pratiquement tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont ajouté des écritures à ce que leurs prédécesseurs avaient reçu. Si les paroles de Moïse dans l'Ancien Testament étaient suffisantes, comme certains auraient pu le croire à tort, alors pourquoi y a-t-il les prophéties postérieures d'Ésaïe ou de Jérémie qui le suit, sans parler d'Ézéchiel, de Daniel, de Joël, d'Amos et des autres? Si une révélation à un prophète à une époque est suffisante pour tout le temps, qu'est-ce qui justifie les nombreux autres? Ce qui les justifie a été dit clairement par Jéhovah lui-même à Moïse. Mes œuvres sont sans fin, mes paroles ne cessent jamais. Un érudit protestant a étudié de manière révélatrice le point de doctrine erronée d'un canon d'écriture fermé. Il a écrit « Sur quelle base biblique ou historique l'inspiration de Dieu a-t-elle été limitée aux documents écrits que l'Église appelle maintenant sa Bible? Si l'Esprit n'a inspiré que les documents écrits du premier siècle, cela signifie-t-il que ce même esprit ne parle pas aujourd'hui dans l'Église de sujets de grande importance? Nous posons humblement les mêmes questions. La révélation continue ne rabaisse pas et ne discrédite pas la révélation existante. L'Ancien Testament ne perd pas de sa valeur à nos yeux quand nous abordons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est que mis en valeur quand nous lisons le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. En considérant les autres écritures acceptées par les saints des derniers jours, on pourrait se demander, les premiers chrétiens qui n'ont eu accès pendant des décennies qu'à l'évangile de Marc, généralement considéré comme le premier des évangiles du Nouveau Testament, à savoir à avoir été écrit, ont-ils été offensés de recevoir les récits plus détaillés présentés ultérieurement par Matthieu et Luc, sans parler des passages sans précédent et des révélations proposées plus tard encore par Jean? Ils ont dû sûrement se réjouir de l'arrivée de preuves encore plus convaincantes de la divinité du Christ. Et nous nous en réjouissons aussi. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous aimons et nous révérons la Bible, comme M. Russell Ballard l'enseignait si clairement à ce pupitre il y a juste un an. La Bible est la parole de Dieu. Elle a toujours indiqué en premier dans notre canon, dans les ouvrages canoniques de notre Église. En fait, c'est après avoir été dirigé par Dieu vers le cinquième verset du premier chapitre du livre de Jean que Joseph Smith a eu la vision du Père et du Fils qui a donné naissance au rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ à notre époque. Mais Joseph savait déjà que la Bible seule ne pouvait pas être la réponse à toutes les questions religieuses que lui et d'autres comme lui avaient. Selon ses propres termes, les prêtres de sa ville s'affrontaient, parfois avec colère, au sujet de leur doctrine. Et je cite, « Prêtre luttant contre prêtre et converti contre converti, dans une querelle de mots et un combat d'opinion. » À peu près la seule chose que ces religions en lutte avaient en commun, c'était, ironie du sort, leur croyance en la Bible. Mais comme Joseph l'a écrit, les prophètes, les professeurs de religion de diverses confessions comprenaient si différemment les mêmes passages de l'Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question par un appel à la Bible. Clairement, la Bible, si fréquemment décrite à l'époque comme un terrain d'entente, n'était rien de la sorte. C'était malheureusement un champ de bataille. Ainsi, l'un des grands objectifs de la révélation continue, donnée par l'intermédiaire des prophètes vivants, est de déclarer au monde par l'intermédiaire de témoins supplémentaires que la Bible est vraie. Ceci est écrit, parlant du livre de Mormon, un prophète d'autrefois a dit, ceci est écrit dans l'intention que vous croyez cela, parlant de la Bible. Dans l'une des premières révélations reçues par Joseph Smith, le Seigneur a dit, voici, je ne fais pas connaître le livre de Mormon pour détruire ce qu'ils ont reçu, mais pour l'édifier. Il faut souligner un autre point. Comme il est clair qu'il y a eu des chrétiens longtemps avant le Nouveau Testament, ou même un recueil des paroles de Jésus, on ne peut donc pas affirmer que la Bible est ce qui fait qu'on est chrétien. Le très estimé érudit du Nouveau Testament, N.T. Wright, a dit, quote, Jésus ressuscité à la fin de l'évangile de Matthieu ne dit pas, toute autorité dans les cieux et sur la terre est donnée aux livres que vous allez écrire. Mais il dit, toute autorité dans les cieux et sur la terre m'est donnée. En d'autres termes, les Écritures elles-mêmes indiquent que ce ne sont pas elles, mais Dieu lui-même qui détient finalement la véritable autorité. Donc les Écritures ne sont pas la source ultime de connaissances pour les saints des derniers jours. Elles sont des manifestations de la source ultime. La source ultime de connaissances et d'autorité pour un saint des derniers jours, c'est le Dieu vivant. La communication de ces dons vient de Dieu sous forme de révélations vibrantes, vivantes, et divine. Ce point de doctrine est au cœur même de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et c'est notre message au monde. Il souligne l'importance de l'assemblée solennelle d'hier, au cours de laquelle nous avons soutenu Thomas S. Monson comme prophète, voyant et révélateur. Nous croyons en un Dieu qui participe à notre vie, qui n'est pas silencieux, ni absent, ni, comme Élie l'a dit, du Dieu des prêtres de Baal, en voyage, agitant, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Dans notre Église, même nos jeunes enfants de la primaire récitent, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. En déclarant de nouvelles écritures et la révélation continue, nous prions pour n'être jamais arrogants ni insensibles. Mais après qu'une vision sacrée dans un bosquet maintenant sacré a répondu par l'affirmative à la question « Dieu existe-t-il ?», Joseph Smith et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours nous forcent à poser la question qui suit nécessairement. Parle-t-il? Nous apportons la bonne nouvelle qu'il parle et qu'il a parlé. Avec l'amour et l'affection nés de notre christianisme, nous invitons tout le monde à se renseigner sur la merveille de ce que Dieu a dit depuis les temps bibliques et ce qu'il dit maintenant. Dans un certain sens, Joseph Smith et ses successeurs prophétiques dans notre Église répondent à la question que Ralph Waldo Emerson a posée à ses étudiants de la faculté de théologie de Harvard, cela fera 170 ans l'été prochain. Le grand sage de Concord a supplié ce groupe de protestants, parmi les meilleurs et les plus brillants, d'enseigner un Dieu qui est, non qui était. Un Dieu qui parle, non qui a parlé. Je témoigne que les cieux sont ouverts. Je témoigne que Joseph Smith était et est un prophète de Dieu, que le livre de Mormon est véritablement un autre témoignage de Jésus-Christ. Je témoigne que Thomas S. Monson est un prophète de Dieu, un apôtre moderne qui détient les clés du royaume dans ses mains, un homme sur lequel j'ai personnellement vu le manteau de l'autorité tombé. Je témoigne que la présence de telles voix autorisées et prophétiques et de révélations continuellement admises dans le canon ont été au cœur de messages chrétiens chaque fois que le ministère autorisé du Christ a été sur la terre. Je témoigne que ce ministère est de nouveau sur la terre et qui se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans notre dévouement sincère à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, nous invitons tout le monde à examiner ce que nous avons reçu de lui, à se joindre à nous pour s'abreuver aux sources d'eau vive, apportant la vie éternelle, flot rappelant comment Dieu constamment que Dieu vit, qu'il nous aime et qu'il parle. Je suis personnellement, profondément reconnaissant que son parole ne cesse jamais et que ses œuvres soient sans fin. Je témoigne de cette attention divine aimante et de ce qui en est écrit. Au nom sacré de Jésus-Christ, amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
J'invite le Saint-Esprit à nous aider dans notre examen d'un principe grâce auquel nos prières peuvent être efficaces. Celui de demander avec foi. Je veux analyser trois exemples de personnes qui ont demandé avec foi dans des prières efficaces et parler des leçons que nous pouvons tirer de chacune d'elles. En parlant de prières, je souligne le mot « efficace ». Dire simplement des prières n'est pas du tout la même chose que prier efficacement. Je suis sûr que nous savons tous déjà que la prière est essentielle à notre développement et à notre protection spirituelle. Mais ce que nous faisons n'est pas toujours le reflet de ce que nous savons. Et même si nous reconnaissons l'importance de la prière, nous pouvons tous améliorer la cohérence et l'efficacité de nos prières personnelles et familiales. L'exemple classique de quelqu'un qui a demandé avec foi est celui de Joseph Smith et la première vision. Cherchant à connaître la vérité en matière de religion, le jeune Joseph a lu les versets suivants au premier chapitre de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Remarquez qu'il faut demander avec foi. Pour moi, cela veut dire qu'il faut non seulement s'exprimer, mais aussi agir. L'obligation double de demander et d'accomplir. La condition requise de communiquer et d'agir. La méditation sur ce texte biblique a amené Joseph à se retirer dans un bosquet près de chez lui pour prier et chercher la connaissance spirituelle. Remarquez les questions qui ont guidé Joseph dans ses pensées et ses supplications. Ouvrez les parenthèses. Au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d'opinions, je me disais souvent, que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison? Ou ont-ils tous tort, autant qu'ils sont? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce? Et comment le saurais-je? Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. Fermez les parenthèses. Les questions de Joseph ne portaient pas seulement sur ce qu'il avait besoin de savoir, mais aussi sur ce qu'il fallait faire. Sa prière n'était pas simplement « Quelle église a raison ?» Elle était « À quelle église dois-je me joindre ?» Joseph est allé dans le bosquet pour demander avec foi, et il était décidé à agir. La véritable foi est axée sur le Seigneur Jésus-Christ et conduit toujours à agir en justice. Le prophète Joseph a enseigné que la foi est le premier principe de la religion révélée et la base de toute justice, et qu'elle est aussi le principe d'action chez tous les êtres intelligents. L'action seule n'est pas la foi au Sauveur, mais l'action, en accord avec des principes corrects, est un élément central de la foi. Ainsi, La foi sans les œuvres est inutile. Le prophète Joseph a expliqué en outre que la foi est non seulement le principe d'action, mais aussi de pouvoir chez tous les êtres doués de raison, au ciel ou sur la terre. La foi au Christ conduit donc à une action juste qui développe notre capacité et notre force spirituelle. La compréhension que la foi est un principe d'action et de force nous pousse à exercer un libre arbitre moral en accord avec la vérité évangélique, suscite la présence des pouvoirs rédempteurs et fortifiants de l'expiation du Sauveur dans notre vie et développe le pouvoir intérieur qui nous permet d'agir par nous-mêmes. Je suis depuis longtemps convaincu que la prière, pour être efficace, exige à la fois une communication sainte et un travail dévoué. Les bénédictions exigent que nous fassions un effort avant de pouvoir les recevoir, et la prière, comme forme d'œuvre, est le moyen désigné d'obtenir les plus grandes de toutes les bénédictions. Nous avançons résolument et nous persévérons dans l'œuvre consacrée de la prière après avoir dit Amen, en mettant en action ce que nous avons exprimé à notre Père Céleste. Pour demander avec foi, il faut être honnête, faire des efforts, s'engager et persévérer. Je vais illustrer ce que je veux dire et vous lancer une invitation. C'est à juste titre que nous prions pour la sécurité et la réussite des missionnaires à plein temps dans le monde entier. Il y a un élément commun à beaucoup de nos prières est de demander que les missionnaires soient dirigés vers les personnes et les familles qui sont prêtes à recevoir le message de l'Évangile. Mais en fin de compte, c'est ma responsabilité et votre responsabilité de trouver des gens pour que les missionnaires les instruisent. Les missionnaires sont des instructeurs à plein temps. Vous et moi sommes des trouveurs à plein temps. Et vous et moi, qui sommes missionnaires pour la vie entière, ne devrions pas prier pour que les missionnaires à plein temps fassent notre travail. Si vous et moi, nous voulons vraiment prier et demander avec foi, comme l'a fait Joseph Smith, si nous voulons prier en nous attendant à agir et non pas seulement à parler, alors la proclamation de l'Évangile avancera d'une manière remarquable. Une prière faite avec ce genre de foi pourrait comporter certains des éléments suivants. Remercier notre Père Céleste des principes doctrinaux et des ordonnances de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ qui nous apportent bonheur et espoir. Demander d'avoir le courage et l'audace d'ouvrir la bouche et de parler de l'Évangile aux membres de notre famille et de nos amis. Supplier notre Père Céleste de nous aider à trouver des personnes et des familles qui seront réceptives à notre invitation d'être instruits chez nous par les missionnaires. Nous engager à jouer notre rôle aujourd'hui et cette semaine et demander l'aide nécessaire pour surmonter l'inquiétude, la peur et l'hésitation. Rechercher le don du discernement, avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre les occasions missionnaires quand elles se présentent. Prier avec ferveur pour avoir la force d'agir comme nous savons devoir le faire. Dans ce genre de prière, qui est close au nom du Sauveur, on exprime de la reconnaissance et on demande d'autres bénédictions. Puis l'œuvre consacrée de cette prière continue et augmente. Ce même modèle de communication et d'œuvre consacrée peut être appliqué dans nos prières pour les pauvres et les nécessiteux, pour les malades et les affligés, pour les membres de la famille et les amis qui ont des difficultés et pour ceux qui n'assistent pas aux réunions de l'Église. Je témoigne que la prière devient efficace quand nous demandons avec foi et quand nous agissons. Je nous recommande à tous de prier avec foi à propos de la mission que Dieu nous a donnée de proclamer l'Évangile. Si nous le faisons, je vous promets que des portes s'ouvriront et que nous aurons la bénédiction de reconnaître les occasions qui nous seront données et d'agir en conséquence. Mon deuxième exemple souligne l'importance de persévérer par la mise à l'épreuve de notre foi. Il y a quelques années, une famille des États-Unis est allée en Europe. Peu après son arrivée à destination, le fils de 13 ans est tombé gravement malade. La mère et le père ont d'abord pensé que ses problèmes d'estomac étaient dus à la fatigue, résultant du long vol en avion, et la famille a poursuivi son voyage. Au fil de la journée, l'état de leur fils a empiré. Il souffrait de plus en plus de déshydratation. Le père a donné une bénédiction de la prêtrise à son fils, mais il n'y eut aucune amélioration immédiate apparente. Plusieurs heures ont passé et la mère s'est agenouillée à côté de son fils en priant notre Père Céleste pour le bien-être du garçon. Ils étaient loin de chez eux, dans un pays inconnu. Ils ne savaient pas comment obtenir des soins médicaux. La mère a demandé à son fils s'il voulait prier avec elle. Elle savait qu'il ne suffirait pas d'attendre la bénédiction espérée. Ils avaient besoin de continuer à agir. En expliquant que la bénédiction qu'il avait reçue agissait toujours, elle a proposé de prier encore, comme les anciens apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi. La prière incluait une profession de confiance dans le pouvoir de la prêtrise et un engagement à persévérer dans l'accomplissement de tout ce qui pouvait être requis pour que la bénédiction soit exaucée. Si cette bénédiction était alors conforme à la volonté de Dieu. Peu après cette prière simple, l'état du garçon s'est amélioré. L'acte de foi de cette mère et de son fils a aidé à susciter le pouvoir promis de la prêtrise et a satisfait en partie à la condition de ne pas contester parce que nous ne voyons pas, car nous ne recevons de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de notre foi. De même que la prison qui retenait Alma et Amulek ne s'est écroulée qu'après leur foi, et de même qu'Amon et ses frères missionnaires n'ont vu de grands miracles s'opérer dans leur ministère qu'après leur foi, la guérison de ce garçon de 13 ans n'est venue qu'après leur foi et a eu lieu selon la foi qu'ils mettaient dans leur prière. Mon troisième exemple illustre l'importance de reconnaître et d'accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a plusieurs années, il y avait un jeune père qui avait été pratiquant dans l'église dans son enfance, mais qui avait changé de voie pendant son adolescence. Après son service militaire, il s'était marié et avait bientôt eu des enfants. Un jour, à l'improviste, leur fillette de 4 ans est tombée gravement malade et a été hospitalisée. Désespéré, le père s'est mis à genoux et a prié pour la première fois depuis des années, en demandant que la vie de sa fille soit épargnée. Mais son état a empiré. Petit à petit, ce père a compris que sa fille ne survivrait pas, et ses prières ont changé lentement. Il n'a plus prié pour obtenir une guérison, mais pour comprendre. Il priait maintenant en disant « Que ta volonté se fasse ». Sa fille est bientôt tombée dans le coma, et le père a compris qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Fortifié par une compréhension, une confiance et un pouvoir qui dépassaient les leurs, les jeunes parents ont à nouveau prié en demandant de pouvoir encore la tenir contre eux pendant qu'elle était réveillée. La fillette a ouvert les yeux et ses petits bras se sont tendus vers ses parents pour une dernière étreinte. Puis elle est morte. Ce père a su que leurs prières avaient été exaucées. Un Père céleste bon et compatissant les avait réconfortés. La volonté de Dieu était accomplie et ils avaient acquis de la compréhension. Le discernement et l'acceptation de la volonté de Dieu dans notre vie sont des éléments fondamentaux pour qui veut demander avec foi dans une prière efficace. Cependant, il ne suffit pas de dire que ta volonté soit faite. Chacun de nous a besoin de l'aide de Dieu pour lui soumettre sa volonté. La prière est l'acte par lequel la volonté du Père et celle de l'enfant sont mis en correspondance. La prière humble, fervente et persévérante nous permet de reconnaître la volonté de notre Père céleste et de nous aligner sur elle. Et c'est de cela que le Sauveur a donné l'exemple parfait quand il a prié dans le jardin de Gethsémané, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il priait plus instamment. Nos prières ne doivent pas avoir pour but de présenter une liste de vœux ou une série de demandes, mais d'obtenir, pour nous et les autres, des bénédictions que Dieu est vivement désireux d'accorder, selon sa volonté et son calendrier. Notre Père Céleste entend chaque prière sincère et y répond. Mais les réponses que nous recevons ne sont pas forcément ce que nous attendons, ni ne nous parviennent quand nous le voulons, ni de la manière que nous espérons. Cette vérité est évidente dans les trois exemples que j'ai donnés aujourd'hui. La prière est une bénédiction et le désir sincère de l'âme. Nous pouvons sortir des prières routinières ou des listes de revendications et faire des prières efficaces dans lesquelles nous demandons avec foi et passons à l'action comme il convient. Et persévérons patiemment pendant la mise à l'épreuve de notre foi et lorsque nous reconnaissons et acceptons humblement que ce ne soit pas notre volonté, mais celle de Dieu qui s'accomplisse. Je témoigne que notre Père Céleste, son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit existent et sont divins. Je témoigne que notre Père Céleste entend nos prières et y répond. Puisse chacun de nous s'efforcer avec plus de résolution de demander avec foi et rendre ainsi ses prières véritablement efficaces. C'est là ma prière, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
With each of you.
Avec vous, je soutiens avec reconnaissance la volonté de Dieu pour son peuple. Merci, Président Monson, de la pureté de votre cœur. Quand le jeune Joseph Smith a dit la vérité au sujet de son expérience sacrée dans le bosquet, il a été persécuté et maltraité. Lucifer a utilisé la raillerie comme arme contre lui. J'étais, dit-il, un garçon obscur de 14 à 15 ans à peine. Pourtant, des hommes haut placés me remarquèrent suffisamment pour exciter l'opinion publique contre moi et provoquer une violente persécution. Pendant toute sa vie, Joseph Smith a connu les persécutions, mais le Seigneur l'a réconforté et lui a donné du courage en lui chuchotant dans le cœur « Sois patient, sois sérieux, sois modéré, sois fidèle et diligent à garder les commandements de Dieu, et je t'entourerai des bras de mon amour. » Et Dieu a en effet fini par l'entourer des bras de son amour, chacun à la même promesse. C'est exactement ce que Joseph a fait. Il a progressé dans la patience, la modération et la foi, malgré la présence d'ennemis sur tous les fronts qui s'efforçaient avec une diligence incessante d'arrêter l'œuvre de Dieu et d'empêcher la progression du rétablissement de la vérité. Pour employer les propres termes de Joseph, des personnes mal intentionnées et conspiratrices se sont entendues pour causer la perte des innocents. L'évangile glorieux dans sa plénitude se répand. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Aujourd'hui encore, il en est qui comprennent mal notre doctrine et contestent les valeurs immuables que nous sommes invités à pratiquer. Mon jeune ami, Ethan, est allé trouver sa mère pour lui poser une question importante. Comme la plupart des adolescents, Ethan veut être indépendant, autonome et entouré de bons amis. Il essaye de faire par lui-même de bons choix. Il est extrêmement vaillant, travaille dur à l'école et étudie quotidiennement les Écritures. Comme tous les jeunes, il affronte des tentations énormes. Elles se produisent dans les couloirs de son école, sur l'Internet, dans les films, la musique. On peut les entendre dans le langage vulgaire et les voir dans les vêtements provocants. Le mal passe souvent pour être bien. L'inquiétude et la crainte d'être rejeté sont courantes chez les adolescents. Les pressions exercées par les autres sont parfois écrasantes. Ethan se sentait bombardé de valeurs contraires. Voici la question qu'il a posée à sa mère. « Maman, faut-il que je fasse des entorses à mes principes pour garder mes amis ?» C'est une question profonde à laquelle chacun de nous doit réfléchir à chaque étape de la vie. Faisons-nous des entorses à nos principes pour nous intégrer à notre voisinage ? Modifions-nous nos valeurs en fonction de la situation sur notre lieu de travail ou pour être bien vu à l'école ? Sa mère, qu'il aime, lui a répondu sur un ton non formel. Moi aussi, je réponds sans équivoque. Ne fais pas cela, Ethan. N'oublie jamais que tu es un fils de Dieu et qu'il t'aime. Vis selon tes principes. Prends le parti de ce à quoi tu crois. C'est parfois difficile et il est possible que tu te retrouves seul pendant quelque temps. Recherche des amis qui font preuve d'intégrité et de caractère, puis va les trouver et remercie-les de l'exemple qu'ils donnent. Peut-être même pourras-tu trouver quelqu'un qui se sent aussi isolé que toi. Prie pour être guidé et protégé par le Seigneur. Il te soutiendra. Il deviendra un ami de confiance et tu t'apercevras que ton exemple t'attirera beaucoup d'amis à qui ta force de caractère aura donné du courage. Néphi nous a enseigné un grand principe, tout simple, en racontant le songe de l'arbre de vie que son père avait eu. Il décrit un chemin étroit et resserré menant à un arbre et à un grand et spacieux édifice. Cet édifice dominait l'arbre et était rempli de gens habillés de vêtements extrêmement beaux et à la mode. Ils avaient tous l'air de se moquer et montraient du doigt ceux qui mangeaient du fruit de l'arbre. Ils faisaient pression sur ceux qui s'avançaient pour qu'ils prennent le chemin menant à l'édifice. Selon toute apparence, les gens à l'intérieur paraissaient beaucoup s'amuser. Quelle image indélébile de la tentation et du mépris. Frère Maxwell a conclu, « Le rire du monde n'est rien d'autre que la solitude qui essaye de se rassurer. » Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. C'est à la fin du verset que se trouve le grand principe de Néphi, la réponse aux pressions indésirables des autres. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Le président Packer a récemment souligné que ce même principe directeur est une norme claire pour nous tous. Bien que nous semblions passer de mode, bien que les principes soient dévalorisés, bien que les gens succombent, nous ne succomberons pas. Nous ne pouvons pas succomber. Reconnaissons-nous la tentation quand elle est si bien camouflée? Sommes-nous disposés à mener un combat impopulaire? Paul nous a lancé cet avertissement clair. N'agissons pas comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Le moment est venu où nous devons prendre une position inflexible. Nous devons renforcer nos fondements spirituels et être prêts à résister aux ruses du diable. Écoutez les prophètes de Dieu. Suivez leurs recommandations. Paul a dit à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il faut du courage pour faire de bons choix, même lorsque les autres autour de nous en font d'autres. Si nous faisons, jour après jour, des choix selon la justice dans de petites choses, le Seigneur nous fortira et nous aidera à choisir ce qui est bien à des moments plus difficiles. Les enseignements et les valeurs que nous chérissons le plus ne sont pas ceux que le monde profane adopte. Pour que nous puissions conserver une position ferme pour nous-mêmes et pour nos enfants, le message de l'Évangile rétabli doit être fermement implanté dans notre cœur et enseigné dans nos foyers. Abinadi, prophète néphite, dont les paroles nous sont rapportées dans quelques pages puissantes de Mosia, nous donne une leçon éternelle qui répond parfaitement aux défis du XXIe siècle. C'était un homme au courage indomptable. Il a pris le parti de la vérité alors qu'il était politiquement incorrect de le faire. Tandis qu'il appelait courageusement le peuple au repentir, il savait qu'il risquait sa vie. Vous pouvez vous imaginer la scène fascinante où Abinadi vient de s'entendre condamné à mort. Il a la possibilité de se sauver en reniant sa foi et son témoignage, en faisant une entorse à ses principes. Mais au lieu de cela, il proclame courageusement, « Je te le dis, je ne rétracterai pas les paroles que je t'ai dites concernant ce peuple, car elles sont vraies. » Nous ne devrons sans doute pas perdre la vie en défendant la vérité, mais nous pouvons, tout comme Abinadi, nous dresser de toute notre hauteur et de tout cœur et proclamer énergiquement et vaillamment que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il était et est le Fils du Tout-Puissant. Il est la pierre principale de l'angle de l'Église qui porte son nom, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il vit et il nous aime. En le suivant, nous pouvons faire des sacrifices et garder nos alliances sacrées. Le Seigneur nous a dit, « Ne craignez donc pas, petit troupeau, faites le bien, laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Nous devons nous fortifier. Ce renforcement spirituel certain se trouve dans deux mots, Jésus-Christ. Je témoigne humblement de lui au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci mes frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter vers Sion, cité promise. Les frères Robert Stewart et Dennis Neuenschwander des 70 nous adresseront ensuite la parole. Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
As a young boy, I discovered amazing power.
Quand j'étais jeune, j'ai découvert un pouvoir spécifiant dans une petite lampe de poche. En l'allumant la nuit, je voyais une grande tache de lumière partout où je la pointais. Mon enthousiasme grandissait quand j'allumais la lampe dans une grange poussiéreuse. Un cône de lumière était projeté dans l'air. Mais ma découverte la plus intéressante a été quand j'ai appuyé fermement la lampe contre la paume de ma main. Toute ma main brillait dans l'obscurité. La lumière était réellement en moi. Il peut être passionnant d'observer les propriétés physiques de la lumière, mais la découverte des propriétés de la lumière et de la vérité spirituelle est encore plus impressionnante et essentielle. Nous vivons à une époque merveilleuse, et pourtant aussi à une heure où la paix a été enlevée de la terre. Pour que nous soyons prospères à cette époque, il faut que la lumière spirituelle brille en nous. Comment obtenir cette lumière spirituelle et nous assurer que les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ remplissent notre âme? Je vais vous suggérer trois moyens. Premièrement, apprendre la vraie doctrine. Deuxièmement, acquérir un témoignage pur. Trois, vivre courageusement selon l'Évangile. Premièrement, apprendre la vraie doctrine. Alma s'est aperçu que la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste. Oui, elle avait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée, ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé. Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. Président Henry B. Eyring a déclaré « La parole de Dieu est la doctrine enseignée par Jésus-Christ et par ses prophètes. » Alma savait que les paroles de la doctrine avaient un grand pouvoir. Elles peuvent ouvrir l'esprit des gens aux choses spirituelles, aux choses invisibles à l'œil naturel. Elles peuvent ouvrir le cœur à l'amour de Dieu et de la vérité. En 1832, le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, un point de doctrine puissant à propos de la lumière spirituelle, la lumière du Christ. Sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace. La lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné. Oui, la puissance de Dieu qui est assise sur son trône. Président Boyd K. Packer a appuyé cette vérité en disant « La lumière du Christ est aussi décrite dans les Écritures comme étant l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ peut éclairer l'inventeur, le scientifique, le peintre, le sculpteur, le compositeur, l'artiste de spectacle, l'architecte, l'auteur pour qu'il produise de grandes choses et même des choses inspirées pour le profit et le bien de toute l'humanité. La réflexion récente des scientifiques sur les propriétés fondamentales de la lumière est véritablement stupéfiante. Actuellement, les scientifiques décrivent même la lumière comme un vecteur, ou comme une messagère, ou comme une médiatrice. Comme la doctrine du Seigneur est profonde. Deuxièmement, acquérir un témoignage pur. Ce témoignage est la confirmation par le Saint-Esprit que Dieu est notre Père et que Jésus est le Christ. La lumière et la vérité que nous voyons en toutes choses nous poussent à obtenir la connaissance par l'étude et par la foi qui précède la confirmation par l'Esprit. Nous pouvons apprendre beaucoup sur l'œuvre et la bonté de Dieu par nos sens physiques, mais un témoignage encore plus profond se révèle quand nous recherchons spirituellement la vérité avec une attention réelle. Président Spencer W. Kimball a dit « Les trésors de la connaissance séculière et spirituelle sont des trésors cachés, mais cachés aux yeux des personnes qui ne cherchent pas correctement à les connaître et qui ne font pas d'efforts pour les trouver. » On n'obtient pas la connaissance spirituelle seulement en la demandant, mais même les prières ne suffisent pas. Il faut persévérer et y consacrer la vie. Notre témoignage est renforcé si nous observons avec révérence le magnifique univers que Dieu a créé pour nous. Le Seigneur a déclaré à Enoch, « Toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage de moi. » Alma a rendu un témoignage semblable à Corior l'Antéchrist. Tout monde qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement, oui. Et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. La lutte qu'Enos a eue devant le Seigneur démontre le pouvoir du témoignage de son Père. Enos dit, « Les paroles que j'avais souvent entendu mon Père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. » Frère M. Russell Ballard a dit, « La proclamation claire de la vérité apporte un changement dans la vie des gens. » C'est cela qui change les cœurs. Ma femme et moi avons assisté à une réunion de Sainte-Seine près de Recife, au Brésil. Un jeune garçon qui devait avoir 9 ou 10 ans, portant son nouveau costume bleu par une journée très chaude, est allé à la chaire et a l'air très détendu à regarder l'assemblée. Il a dit, « Notre famille a fait une étude sur le libre arbitre. » Puis, il a lu le texte suivant. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle, par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Il a ajouté. Certains de mes anciens amis ont choisi de fumer et de prendre de la drogue, mais nous devrons tous accepter les conséquences de nos actes. Il a fini en rendant son témoignage et a dit, « Je peux voir que cela est vrai. » Ce témoignage d'un garçon si jeune était puissant et nous a touchés profondément. Troisièmement, nous devons vivre courageusement en accord avec la lumière et le témoignage que nous avons reçu. Il nous est fait la promesse suivante. Celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Il faut un effort et un sacrifice réel pour vivre l'Évangile courageusement. Pendant de nombreuses années, le culte au temple pour les saints qui habitaient Manaus, au Brésil, impliquait de voyager pendant 2 jours dans un bateau bondé sur l'Amazone, puis pendant 2 jours en car à travers la zone tropicale torride jusqu'au temple de Recife. Arrivés usés et fatigués, ils prenaient une douche et s'habillaient convenablement et commençaient immédiatement leur culte au temple. Après plusieurs jours de service pour le Seigneur, ils faisaient le long et difficile voyage qui les ramenait chez eux. Leur action de sacrifice reflétait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Pour être en paix à notre époque merveilleuse mais difficile, nous devons apprendre la vraie doctrine, acquérir un témoignage pur et vivre courageusement les vérités de l'Évangile. Si nous vivons en harmonie avec la lumière et la vérité enseignée par Jésus-Christ et par ses prophètes, nous verrons plus clairement notre destinée éternelle. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans le livre de Luc, il est question d'une femme qui souffrait depuis 12 longues années d'une perte de sang. Elle avait dépensé tous ses biens pour trouver une solution médicale, mais sans succès. Dans la foule, cette femme s'est approchée du Sauveur par derrière et a touché le bord de son vêtement. Jésus a voulu savoir qui l'avait touché parce qu'il avait senti une force le quitter. Les apôtres, ne pouvant pas comprendre sa question, lui ont demandé: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Alors la femme, apeurée et tremblante, confessa que c'était elle qui l'avait touchée, et qu'elle avait été immédiatement guérie. Le Sauveur lui dit de partir en paix, que sa foi l'avait sauvée. Il y a beaucoup à méditer et à apprendre de cette petite histoire intéressante. J'imagine la foule. Il devait y avoir beaucoup de monde, car les gens pressaient Jésus. Ce pouvait même être une foule bruyante, avec des gens qui poussaient et se bousculaient pour essayer de mieux le voir. Je me demande pourquoi ils étaient là. Je pense que la plupart étaient venus par curiosité. Partout où Jésus allait, la nouvelle de son arrivée et le récit de ses miracles le précédaient. Les gens s'attendaient peut-être à voir quelque chose d'extraordinaire, un événement à ne pas manquer. Cela n'est pas mentionné, mais il y avait probablement des pharisiens dans la foule. Ils semblaient être toujours là, à chercher des occasions pour le prendre au piège et de le mettre dans l'embarras, ou de trouver quelque chose qui pourrait le condamner. Peut-être y avait-il même dans la foule des gens qui étaient venus pour se moquer de lui. Dans la foule, il y avait une femme. Je vois une femme humble, peut-être même une femme timide, s'approchant sans bruit du Sauveur par derrière, puis confessant avec embarras qu'elle avait touché le bord de son vêtement. C'était une femme épuisée et ruinée par ses difficultés. Elle avait désespérément besoin d'aide. De l'extérieur, peu de choses la distinguaient des autres gens de la foule. Personne n'a essayé de l'empêcher d'aller vers Jésus. Il était certain que les apôtres ne l'ont pas remarqué et n'ont pas essayé de l'arrêter. Mais il y avait quelque chose qui l'indistinguait de tous les gens de la foule ce jour-là. Bien que noyée dans une foule grouillante, elle avait avancé résolument et silencieusement, avec un objectif à l'esprit, approcher le Sauveur, ayant la foi qu'il avait le pouvoir de la guérir, qu'il se souciait d'elle et qu'il répondrait à son besoin. Par cela, elle se distinguait des gens de la foule. La foule venait voir, mais la femme venait pour être guérie. Il y a d'autres récits intéressants dans les Écritures où une personne fidèle se trouve dans une foule. Alma se trouvait parmi les méchants prêtres du roi Noé. Ces hommes sont décrits comme étant enflés dans l'orgueil de leur cœur, paresseux et idolâtres, des gens qui adressaient des paroles vaines et mensongères au peuple. Ils avaient perverti les voies du Seigneur parce qu'ils n'avaient pas appliqué leur cœur à comprendre. Quand Abinadi a donné son message de repentir, ils se sont moqués de lui et ont fini par le mettre à mort. C'était une foule méchante. Pourtant, comme les Écritures le signalent, il y en avait un parmi eux qui crut. Seul Alma a reçu dans son cœur les enseignements d'Abinadi. Avec courage, il s'est séparé de la foule pour suivre le Seigneur. L'influence de ce seul homme de la foule sur le cours de l'histoire néphite est incommensurable. L'une des foules les mieux connues dans le livre de Mormon est celle qui se trouve dans le grand et spacieux édifice, dans la vision de l'arbre de vie qu'a eu Lehi. L'édifice était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, qui se moquaient de ceux qui prenaient du fruit de l'arbre et les montraient du doigt. Malheureusement, certains de ceux qui avaient goûté du fruit écoutèrent la foule et tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Mais il y en eut d'autres qui prirent du fruit et ne firent pas attention à la foule. Ce sont ceux qui profitèrent de toutes les bénédictions de l'arbre de vie. En réalité, ces histoires ne traitent pas de foule, mais de personnes dans ces foules. Elles parlent en réalité de vous et de moi. Nous sommes tous dans les foules de ce monde. Mon expérience m'a enseigné que nous sommes presque tous comme la femme qui, malgré la foule, est allée vers le Sauveur. Nous avons tous la foi qu'il suffit de toucher pour guérir notre âme douloureuse et soulager nos besoins les plus profonds. J'ai remarqué que les nouveaux membres de l'Église dans de nombreux pays sont souvent comme Alma. Ils sont les seuls de leur famille ou parmi leurs amis à entendre les paroles de vie. Ils ont pourtant le courage d'accepter l'Évangile et de se frayer un chemin au milieu de la foule. Je pense que chacun de nous comprend ce que signifie prendre du fruit de l'arbre de vie, qui rassasie en voyant et en entendant des gens qui se moquent de nous, et ce que signifie faire des efforts courageux pour ne pas faire attention à eux. Se frayer un chemin dans les foules du monde peut être solitaire et difficile. Leurs attraits et leurs forces, pour la personne qui souhaite s'écarter vers quelque chose de meilleur, sont très forts et très difficiles à vaincre. Qui peut mieux que le Sauveur atteindre, soutenir et finalement sauver une personne dans la foule? Il comprend ce que signifie persévérer dans une foule irrespectueuse et rester fidèle. Les foules du monde ne le reconnaissent pas, disant qu'il a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et que son aspect n'a rien pour nous plaire. Le roi Benjamin a dit que le monde le considérera comme un homme. Ésaïe décrit aussi la place du Christ dans la foule du monde de la manière suivante. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Néphi a écrit que le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. Mais finalement, le premier-né de Dieu, qui est si souvent mal jugé et mal compris, émergera de la foule comme étant loin, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Cette émergence est humblement prédite dans la déclaration du Sauveur à certains grands prêtres et anciens. La pierre qu'ont jetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Mes chers frères et sœurs, je prie pour que chacun de nous puisse en toute sécurité passer dans les foules de ce monde, dans toutes les circonstances de la vie. Avançons calmement et résolument vers le Sauveur, ayant foi qu'il se soucie de nous et qu'il a le pouvoir de nous guérir et de nous sauver. Obéissons à ses paroles de vie et prenons totalement, continuellement et courageusement du fruit qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, mes frères. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Lance Wickman et Craig Christensen des 70. Ils seront suivis de M. Russell Ballard du Collège des 12 apôtres.
Three weeks ago,
il y a trois semaines, j'ai fait un tour dans le passé. À ce moment-là, j'ai redécouvert le présent. Et c'est du présent dont je veux parler. Une responsabilité de l'Église m'a mené à traverser les vastes étendues du Pacifique pour atteindre le Vietnam. Pour moi, c'était plus qu'un vol au-dessus d'un océan. C'était un retour dans le passé. Il y a plus de 40 ans, j'avais été officier d'infanterie sur les champs de bataille de ce pays. Après les décennies qui avaient suivi, c'est en moi. Sa population et compagnie d'armes étaient encore gravée dans ma mémoire. Jacob a écrit, « Notre vie a passé comme un rêve. » Cela a été le cas pour moi. De ma galerie de souvenirs, je retournais maintenant à cet endroit, chargé de souvenirs après près d'un demi-siècle. Lorsque j'ai eu terminé les affaires que j'avais à traiter pour l'Église, j'ai décidé de retourner voir les lieux où s'était déroulé un combat désespéré. J'ai effectué ce pèlerinage accompagné de ma chère femme. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que j'attendais après tant d'années. Mais je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'y ai trouvé. Au lieu de gens ravagés par la guerre, j'ai trouvé une population jeune et pleine de vie. Au lieu de paysages pilonnés par les obus, j'ai trouvé des champs calmes et verdoyants. Même la jungle avait repoussé. Je pense que je m'attendais un peu à trouver le passé, mais ce que j'ai vu, c'était le présent et la promesse d'un brillant avenir. Cela m'a rappelé que le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Lorsque j'ai remis les pieds sur ce champ et que j'ai suivi de nouveau un sentier dans la jungle, j'ai cru réentendre le bruit saccadé des mitrailleuses, le sifflement des obus et le fracas des armes légères. J'ai revu le visage bronzé d'amis qui ont donné la dernière mesure de leur dévouement. J'ai pensé à un jour en particulier, un seul jour, le 3 avril 1966. C'était le dimanche des Rameaux, à la période de Pâques. Cela fait presque 42 ans, jour pour jour. Notre bataillon d'infanterie était au Vietnam depuis plusieurs mois. J'étais lieutenant et je conduisais un peloton de fusiliers. Nous étions presque constamment dans des opérations de combat. Lorsque le jour s'est levé, notre bataillon était loin à l'intérieur du territoire ennemi. Très tôt le matin, nous avons envoyé une patrouille d'une dizaine d'hommes en reconnaissance. L'un d'eux était le sergent Arthur Morris. Plusieurs hommes ont été blessés dans un échange de tirs, y compris le sergent Morris, qui a reçu une légère blessure superficielle. Les hommes de la patrouille sont finalement retournés, en boitant derrière nos lignes. Nous avons lancé un appel radio pour demander une évacuation médicale. Lorsque nous avons aidé les blessés à monter à bord de l'hélico, j'ai demandé au sergent Maurice d'y monter aussi. Il a rechigné de le faire. Je lui ai demandé une deuxième fois. Il a de nouveau rechigné. J'ai insisté une dernière fois. Il a encore refusé. Finalement, j'ai dit, « Sergent Maurice, montez dans cet hélico. » Il m'a regardé, le regard sincère et suppliant, qui veut dire « S'il vous plaît, lieutenant ». Puis il a prononcé ces paroles qui ne cesseront jamais de hanter. Ils n'arriveront pas à tuer un vieux dur à cuire comme moi. Toute cette scène reste gravée dans ma mémoire comme le tableau d'une bataille. La jungle qui s'éclaircissait, le battement impatient des pales de retors de l'hélicoptère, le pilote qui me regardait, attendant mes ordres et mon ami qui me suppliait de laisser avec ses hommes. J'ai cédé. J'ai fait signe à l'hélicoptère qui emporte avec lui ses espoirs d'avenir. Avant que le soleil ne se couche ce jour-là, mon cher ami juif, le sergent Arthur Cyrus Morris, gisait mort sur le sol, abattu par des tirs ennemis. Dans mon esprit, j'entends encore et encore son exclamation, « Ils n'arriveront pas à tuer. Ils n'arriveront pas à tuer. Ils n'arriveront pas à tuer. » Bien sûr, dans un sens, il avait tout à fait tort. L'existence est si fragile. Un seul battement de cœur, un seul souffle sépare ce monde du suivant. Un instant, mon ami était bien vivant, et l'instant d'après, son esprit immortel avait fui, réduisant son tabernacle mortel à un monceau d'argile sans vie. La mort est un rideau que chacun de nous doit passer, et comme le sergent Arthur Morris, personne ne sait quand ce passage aura lieu. De toutes les expériences que nous rencontrons, la plus grande est peut-être l'impression erronée que l'existence mortelle dure toujours, et ce qui en découle, que nous pouvons attendre demain pour demander et accorder le pardon. qui, selon les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ, compte parmi les buts principaux de la condition mortelle. Cette vérité profonde est enseignée par Amulek dans le livre de Mormon. Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici, le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Je vous supplie donc de ne pas différer le jour de votre repentir jusqu'à la fin. Car ce même esprit qui possède votre corps au moment où vous quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel. Quelle expression poignante utilisée par Amulek, le jour de cette vie. L'apôtre Jacques l'a dit en ces termes. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et la personne que nous sommes lorsque nous quittons cette vie est la personne que nous serons lorsque nous entrerons dans la suivante. Heureusement, comme Alma l'a enseigné, nous avons aujourd'hui un temps accordé à l'homme pour se repentir, oui, un temps probatoire. Si le sergent Maurice avait tout à fait tort, il avait aussi raison. Nous sommes vraiment immortels. Et à condition que nous ayons vécu aujourd'hui de manière telle que nous puissions prétendre à la grâce purificatrice de l'expiation, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Cette vie n'est pas tant un moment pour obtenir et accumuler qu'un moment pour donner et redevenir. La condition mortelle est le champ de bataille où se rencontrent la justice et la miséricorde. Cependant, nul besoin pour elles de se rencontrer en ennemi, car elles sont réconciliées dans l'expiation de Jésus-Christ pour tous ceux qui utilisent aujourd'hui avec sagesse. Il ne reste à vous et moi qu'à demander et accorder ce pardon, à nous repentir comme à procurer la charité aux autres, ce qui nous permet d'entrer par la porte que le Sauveur tient ouverte, et de passer ainsi le seuil qui sépare cette vie de l'exaltation. Aujourd'hui est le jour où nous devons pardonner aux autres leur offense, sachant avec certitude que le Seigneur pardonnera les nôtres. Comme Luc l'a bien rapporté, soyez donc miséricordieux. La perfection peut nous échapper ici, mais nous pouvons être miséricordieux. En définitive, le repentir et le pardon font partie des plus grandes choses que Dieu attend de nous. Une fois mon pèlerinage dans le passé terminé, j'ai regardé ces champs de tranquilles d'aujourd'hui et j'ai vu dans la fertilité la promesse du lendemain. J'ai pensé à mon ami, le sergent Arthur Cyrus Morris. J'ai pensé à ce jour fatidique du dimanche des rameaux. J'ai éprouvé une profonde reconnaissance pour le rédempteur du matin de Pâques, hier, qui nous accorde la vie et qui est descendu au-dessus de tout pour que nous nous élevions au-dessus de tout. Demain, si seulement nous saisissons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Mes chers frères et sœurs, c'est un honneur sacré pour moi de m'être joint à vous pour soutenir Thomas S. Monson, ses conseillers dans la première présidence, ainsi que les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne que les prophètes parlent selon qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'ils disent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est Écriture. Et la volonté du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des cinq derniers jours, nous avons l'avantage et la bénédiction d'avoir des Écritures vivantes, prononcées par les hommes qui sont soutenus comme prophètes, ainsi que des Écritures canoniques, que l'on trouve dans la Bible, le livre de Mormon, les doctrines et alliances et la perle de grand prix. Le prophète Néphi a écrit « Mon âme fait ses délices des Écritures, et mon cœur les mérite, les médite et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants. » Les écrits sacrés, particulièrement le livre de Mormon, nous persuadent de nous réconcilier avec Dieu par l'expiation du Christ, son Fils unique. Il y a quelques mois, un ami et moi avons eu l'occasion d'offrir un jeu d'écriture à une connaissance qui n'est pas membre de l'Église. Sachant que ce serait un événement qui allait peut-être changer sa vie, et la nôtre, nous avons pris le temps de faire écrire son nom en relief sur chaque volume. Lorsque nous lui avons offert ses annales sacrées, nous avons pu voir qu'il était profondément ému par l'importance et la sincérité de notre geste. Pendant quelques minutes, il a examiné chaque livre sans dire un mot. Il a passé la main sur la couverture et a tourné quelques pages. Reconnaissant l'importance de ce moment, nous l'avons aidé à prendre la page de titre du Livre de Mormon et avons commencé à expliquer que le Livre de Mormon est un autre témoignage, un autre testament ou témoignage de Jésus-Christ. Il a alors posé une question que tous les membres qui ont un esprit missionnaire sont impatients d'entendre. Pourquoi avons-nous besoin d'un autre témoignage de Jésus-Christ que celui de la Bible? Plutôt que de répondre rapidement, nous lui avons demandé pourquoi, selon lui, cela pourrait être important. Sa réponse semblait encore plus inspirée que sa question. Il a dit que, puisqu'il semblait y avoir tant de versions de la Bible et de différences dans ses enseignements, nous avions peut-être besoin d'une sorte de voix capable d'expliquer, de quelque chose qui nous aiderait à mieux comprendre la Bible. Sa remarque nous a donné l'occasion de lui expliquer nos sentiments et notre témoignage concernant tant la Bible que le Livre de Mormon. Nous avons commencé par lui expliquer notre attachement et notre profonde conviction concernant la doctrine et les enseignements de la Bible, en particulier du Nouveau Testament. La possibilité de lire un grand nombre des paroles que le Sauveur a prononcées lorsqu'il a enseigné son Évangile pendant son ministère terrestre nous renforce, nous aide à le connaître et nous enseigne que nous pouvons davantage lui ressembler. Nous avons ensuite déclaré que, comme la Bible, le Livre de Mormon est une preuve supplémentaire que Dieu aime tous ses enfants et qu'il nous a fourni le moyen de retourner vivre de nouveau avec lui. Ensuite, nous avons passé environ une heure à aborder de nombreux aspects du Livre de Mormon, y compris son histoire et son origine divine. Permettez-moi de vous présenter quelques-unes des choses dont nous avons parlé. Tout d'abord, nous avons expliqué que le Livre de Mormon est un livre contenant une promesse. Bien que son histoire soit convaincante par elle-même, c'est un livre qui a une importance scripturaire et qui doit être reçu et lu sous l'influence du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui étudient ces enseignements et méditent à leur sujet reçoivent une promesse qui se trouve au dernier chapitre de Moroni, ainsi que dans l'introduction du Livre de Mormon, dans laquelle nous avons lu. Nous invitons les hommes et les femmes du monde entier à lire le Livre de Mormon, à méditer dans leur cœur le message qu'il contient et à demander ensuite à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si le livre est vrai. Ceux qui agiront de cette façon et demanderont avec foi obtiendront, par le pouvoir du Saint-Esprit, le témoignage de sa véracité et de sa divinité. Nous avons ensuite passé quelques minutes à parler de la prière et de la façon dont le Saint-Esprit peut parler à notre cœur et confirmer que le Livre de Mormon est vrai. Nous avons dit ensuite que le Livre de Mormon est un livre qui a un objectif. Sur la page de titre, nous avons lu que le Livre de Mormon a été écrit par commandement et par l'esprit de prophétie et de révélation pour paraître par le don et le pouvoir du Dieu, afin de convaincre chacun de nous que Jésus est le Christ, le Dieu éternel. Néphi, l'un des auteurs du Livre de Mormon, a lui-même exprimé cet objectif dans les termes suivants. Tout mon dessein est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob et d'être sauvés. En plus de cela, nous avons expliqué que le Livre de Mormon est un livre qui enseigne le grand plan du bonheur. En des termes profonds mais compréhensibles, le Livre de Mormon enseigne le but de la vie, d'où nous sommes venus et ce qui se passe lorsque nous mourons. Nous y apprenons la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, le repentir, l'importance du baptême par immersion et les dons et le pouvoir du Saint-Esprit. En étudiant la doctrine du Livre de Mormon, et en nous en faisant un festin, nous acquérons une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes, ainsi que le désir de persévérer jusqu'à la fin et d'avoir la vie éternelle. Mais surtout, nous avons déclaré que le Livre de Mormon est un livre qui témoigne que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Dans tout le Livre de Mormon, de grands prophètes rendent le témoignage solennel que Jésus-Christ est le Créateur de la terre, le Rédempteur du genre humain, le Fils unique du Père. Comme Abraham et Moïse, ces prophètes du Livre de Mormon le connaissaient et ont reçu et enseigné son évangile éternel. Lorsque nous lisons et étudions leurs paroles, nous acquérons une plus grande compréhension de l'amour sans pareil du Sauveur, de sa vie, de son exemple parfait et des bénédictions de son grand sacrifice expiatoire. Nous avons ensuite témoigné que le livre de Mormon est une preuve tangible que Joseph Smith a été choisi par la main du Seigneur pour rétablir sur terre l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Comme le dit l'introduction du livre de Mormon, ceux qui obtiendront le témoignage divin du Saint-Esprit, de la divinité du livre de Mormon, sauront aussi, par le même pouvoir, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre. Depuis que Samuel Smith a entrepris de prêcher l'Évangile avec quelques exemplaires de sa première édition, le livre de Mormon a touché des millions de personnes qui cherchent la vérité. Je prie pour que nous continuions d'utiliser le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, pour faire connaître le message de l'Évangile à notre famille et à nos amis. Si nous le faisons, beaucoup montreront un grand intérêt, et comme cela a été le cas de notre cher ami, à en savoir davantage sur la vie et la mission du Sauveur et son grand plan du bonheur pour chacun de nous. Je témoigne solennellement que le livre de Mormon est vrai. C'est un livre qui a opéré un grand changement dans ma vie. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son évangile a été rétabli sur la terre. Thomas S. Monson est son prophète et son oracle vivant à notre époque. L'esprit que je ressens en lisant quotidiennement le livre de Mormon et en méditant et en priant à son sujet renforce la compréhension et le témoignage que j'ai de ces choses et me réaffirme qu'elles sont vraies. Je vous rends humblement et personnellement témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs, récemment, ma femme, Barbara, a été opérée du dos et ne pouvait ni rien porter, ni se tourner, ni se baisser. Si bien que j'ai dû porter, me tourner, me baisser, plus que jamais auparavant. Et cela m'a fait apprécier davantage ce que les femmes, et particulièrement les mères, font tous les jours à la maison. Les femmes habitent des foyers dans des situations très différentes. Mariées, célibataires, veuves ou divorcées, avec des enfants ou non, mais elles sont toutes aimées de Dieu et il a un plan pour ses filles fidèles pour recevoir les plus grandes bénédictions de l'éternité. Cet après-midi, je désire parler principalement des mères, en particulier des jeunes mères. Lorsque j'étais jeune père, j'ai appris quel rôle exigeant est la maternité. J'ai été conseiller puis évêque pendant 10 ans. Pendant cette période, nous avons eu la bénédiction d'avoir 6 de nos 7 enfants. Barbara était souvent épuisée quand je rentrais à la maison le dimanche soir. Elle essayait d'expliquer ce que c'était de passer les réunions de Sainte-Seine assise au dernier rang avec nos jeunes enfants. Puis le jour de ma relève est arrivé. Après avoir été assis sur l'estrade pendant 10 ans, j'étais maintenant assis avec ma famille sur le banc du fond. Aussitôt la Sainte Cène distribuée, ma femme s'est éclipsée dans le hall d'entrée. J'étais assis seul avec nos 6 enfants. Je n'ai jamais été aussi occupé de toute ma vie. J'avais une marionnette sur chaque main. Ça ne marchait pas trop bien. Les biscuits m'ont échappé des mains, ce qui est embarrassant. Les livres de coloriage n'avaient pas l'air aussi intéressants qu'ils l'auraient dû. Après m'être débrouillé tant bien que mal jusqu'à la fin de la réunion, je suis allé dans le hall d'entrée avec les enfants. Barbara était là, souriante. Et elle m'a dit, « Je t'ai regardé faire. » Ce dimanche-là, j'ai davantage apprécié ce qu'elle faisait si bien et si fidèlement, tout comme vous, chère mère. Une génération plus tard, en tant que grand-père, j'ai vu les sacrifices faits par mes filles pour élever leurs enfants. Et maintenant, une autre génération plus tard, Je suis impressionné par les pressions qui s'exercent sur mes petites filles alors qu'elles guident leurs enfants dans ce monde agité et exigeant. Après avoir observé avec empathie 3 générations de mères et en pensant à ma chère mère, j'ai la certitude qu'il n'y ait, dans la vie, pas de rôle plus essentiel et plus éternel que celui de la maternité. Il n'existe pas une seule façon parfaite d'être une bonne mère. Chaque situation est unique. Chacune a des difficultés différentes, des capacités différentes et assurément des enfants différents. Le choix est différent et propre à chaque mère et à chaque famille. Beaucoup réussissent à être des mères à plein temps, au moins pendant les années les plus formatrices de la vie de leurs enfants, et beaucoup aimeraient pouvoir l'être. Il se peut que certaines doivent travailler à temps partiel ou à temps plein, certaines chez elles. Certaines peuvent diviser leur vie en périodes passées à la maison, avec la famille et au travail. L'important est qu'une mère aime profondément ses enfants et, en accord avec son attachement à Dieu et à son mari, leur accorde la priorité absolue. Je suis impressionné par le nombre incalculable de mères qui ont appris combien il est important de se concentrer sur les choses qui ne peuvent être faites qu'à une période particulière de la vie. Si un enfant habite avec ses parents pendant 18 ou 19 ans, ce laps de temps ne représente qu'un quart de la vie des parents. Et la période la plus formatrice de toutes, les premières années de la vie d'un enfant, représente normalement moins d'un dixième de leur vie. Il est crucial de nous concentrer sur nos enfants pendant la courte période où nous les avons avec nous et de nous efforcer, avec l'aide du Seigneur, de leur enseigner tout ce que nous pouvons avant qu'ils ne quittent notre foyer. Cette œuvre d'une importance éternelle incombe aux mères et aux pères en partenaires égaux. Je suis reconnaissant que de nombreux pères s'occupent davantage de leurs enfants. Mais je crois que l'instinct et la profonde implication des mères dans l'éducation de leurs enfants seront toujours les clés essentielles de leur bien-être. Selon les termes de la Déclaration sur la famille, la mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Nous devons nous rappeler que l'engagement total de la maternité et le fait de mettre les enfants en premier peuvent être difficiles. De par mon expérience familiale sur 4 générations et mes discussions avec des mères de jeunes enfants dans l'Église entière, je connais un peu les sentiments qui accompagnent l'engagement des mères à être chez elles avec leurs jeunes enfants. Il y a des instants de grande joie et de satisfaction incroyables, mais il y a aussi des moments de sensation d'impuissance, de monotonie et de frustration. Les mères peuvent avoir l'impression de recevoir peu ou pas de reconnaissance pour le choix qu'elles ont fait. Parfois, le mari lui-même semble n'avoir aucune idée de ce qui est exigé d'elle. L'Église a un respect et une reconnaissance immense envers vous, mères de jeunes enfants. Nous voulons que vous soyez heureuses et réussissiez en famille et que vous receviez la reconnaissance et le soutien nécessaires et mérités. Aujourd'hui, je vais donc poser 4 questions et y répondre brièvement. Mes réponses vont sembler extrêmement simples, mais une fois que les choses simples sont réglées, la vie de la mère peut être très gratifiante. Question. Que pouvez-vous faire, jeune mère, pour réduire la pression et apprécier davantage votre famille? Premièrement, soyez consciente que les joies de la maternité se goûtent par instant. Il y a des instants difficiles et des moments pénibles, Mais au milieu des difficultés, il y a des moments remarquables de joie et de contentement. L'écrivain Anna Kindle nous rappelle de ne pas passer à toute allure à côté de ces instants fugaces. Elle dit « La plus grande erreur en tant que parent est celle que la plupart d'entre nous font. Je n'ai pas assez vécu dans l'instant. C'est particulièrement évident maintenant que l'instant est passé, saisi uniquement sur des photos. Une photo de mes trois enfants les représente assis dans l'herbe sur une couverture piquée à l'ombre des balançoires un jour d'été à l'âge de 6, 4 et 1 an. Et j'aimerais pouvoir me rappeler ce que nous avons mangé, de quoi nous avons parlé, comme était leur voix et l'expression de leur visage lorsqu'ils se sont endormis ce soir-là. Je regrette d'avoir été si pressé de passer à la suite, le dîner, le bain, la lecture, le lit. Je regrette de n'avoir pas privilégié un peu plus l'action et un peu moins la réalisation. Deuxièmement, ne vous surchargez ni vous ni vos enfants. Nous vivons dans un monde aux possibilités illimitées. Si nous n'y prenons garde, chaque minute sera truffée de soirées, de cours, d'exercices physiques, de clubs de lecture, de travaux manuels, d'appels dans l'église, de musique, de sport, d'Internet et de nos émissions télévisées préférées. Une mère m'a parlé d'une époque où ses enfants avaient 29 engagements prévus chaque semaine. Leçons de musique, scoutisme, danse, championnat, camp de jour, football, dessin. Elle avait l'impression d'être un chauffeur de taxi. Elle a fini par demander une réunion de famille et a annoncé « Il faut laisser tomber quelque chose. Nous n'avons pas de temps pour nous et pas de temps les uns pour les autres. Les familles ont besoin de temps non programmé où les relations peuvent s'approfondir et le rôle de parent peut s'exercer. » Prenez le temps d'écouter, de rire et de jouer ensemble. Troisièmement, tout en essayant de supprimer les engagements en surnombre, sœurs, trouvez du temps pour vous, pour cultiver vos dons et vos centres d'intérêt. Choisissez une ou deux choses que vous aimeriez apprendre ou faire, qui enrichiront votre vie, et prenez le temps de vous y consacrer. On ne peut tirer d'eau d'un puits vide, et si vous ne gardez pas un peu de temps pour vous ressourcer, vous aurez de moins en moins à donner aux autres, même à vos enfants. Évitez la drogue sous toutes ses formes, pensant à tort qu'elle vous aiderait à accomplir davantage. Et ne perdez pas votre temps en vous laissant entraîner dans des choses abêtissantes, comme les feuilletons télévisés et la navigation sur l'Internet. Tournez-vous avec foi vers le Seigneur et vous saurez quoi faire et comment l'accomplir. Quatrièmement, priez, étudiez et enseignez l'Évangile. Priez profondément concernant vos enfants et votre rôle de mère. Les parents peuvent offrir un genre de prière unique et merveilleux car ils s'adressent à notre Père éternel, à tous. Il y a un grand pouvoir dans une prière qui dit en substance « Nous sommes des parents responsables de tes enfants, Père. » Veuille nous aider à les élever comme tu voudrais qu'ils le soient. Deuxième question. Que peut faire de plus le mari pour soutenir sa femme, la mère de leurs enfants? Premièrement, témoigner davantage de reconnaissance et donner plus de preuves de gratitude pour ce que votre femme fait chaque jour. Remarquez les choses et dites merci souvent. Programmez des soirées ensemble uniquement pour vous deux. Deuxièmement, ayez un moment fixé pour parler avec votre femme des besoins de chaque enfant et de ce que vous pouvez faire pour aider. Troisièmement, donnez à votre femme une journée de libre de temps en temps. Prenez en charge la maisonnée et permettez à votre femme de s'évader de ses responsabilités quotidiennes. Le fait de prendre la relève pour quelque temps augmentera vous rendra beaucoup plus reconnaissant pour ce que votre femme fait chaque jour. Vous devrez peut-être beaucoup porter, vous tourner et vous baisser. Quatrièmement, rentrez chez vous après le travail et jouez un rôle actif dans votre famille. Ne faites pas passer le travail, les amis ou le sport avant l'écoute, le jeu et l'enseignement de vos enfants. Troisième question, que peuvent faire les enfants, même les jeunes enfants? Vous, les enfants, veuillez maintenant écouter ces choses simples que vous pouvez faire pour aider votre mère. Vous pouvez ramasser vos jouets lorsque vous avez fini de jouer. Et quand vous êtes un peu plus âgé, vous pouvez faire votre lit, aider à faire la vaisselle et faire d'autres tâches sans qu'on vous le demande. Vous pouvez dire merci plus souvent après un bon repas. Lorsqu'on vous lit une histoire à l'heure du coucher ou quand des vêtements propres sont rangés dans vos tiroirs. Plus que tout, vous pouvez enlacer souvent votre maman et lui dire que vous l'aimez. Dernière question, que peut faire l'Église? L'Église propose de nombreuses choses aux mères et aux familles, mais pour mon propos d'aujourd'hui, je suggère que l'épiscopat et les membres du conseil de paroisse soient particulièrement attentifs au temps et aux ressources qui sont demandées aux jeunes mères et à leurs familles. Connaissez-les et choisissez avec sagesse ce que vous leur demanderez de faire à cette période de leur vie. Le conseil d'Alma à son fils Élaman s'applique à nous aujourd'hui. Voici, je te dis que c'est par des petites choses et simples que de grandes choses sont réalisées. J'espère que chacune de vous, chères sœurs, mariée ou célibataire, ne vous demandez jamais si vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur et des dirigeants de l'Église. Nous vous aimons, nous respectons et apprécions votre influence dans la sauvegarde de la famille et dans la progression et la vitalité spirituelle de l'Église. Rappelons-nous que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Déclaration sur la famille. Les Écritures et les enseignements des prophètes et des apôtres aident tous les membres de la famille à se préparer à être ensemble maintenant et pendant toute l'éternité. Je prie Dieu de bénir continuellement les femmes de l'Église afin qu'elles trouvent de la joie et du bonheur dans leur rôle sacré de filles de Dieu. Maintenant, pour terminer, je veux ajouter mon témoignage de l'appel prophétique du président Monson. Je le connais depuis qu'il avait 22 ans et moi 21. Pendant 58 ans, j'ai vu la main du Seigneur le préparer pour ce jour où il présiderait l'Église en tant que prophète et président. Et j'ajoute mon témoignage à tous les autres que Jésus est le Christ et que cette Église est la sienne.
And add my testimony along with all the others also that Jesus is the Christ.
Et que cette Église est la sienne. Au nom de Jésus-Christ.
In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Thank you, brethren. As we conclude the conference,
merci, mes frères. À la fin de cette conférence, nous remercions le chœur du Tabernacle, le chœur mixte de l'Université Brigham Young et le chœur de la prêtrise des instituts de Logan et d'Ogden, ainsi que leur directeur et organiste, de la belle musique inspirante qu'ils ont interprétée. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à ces sessions. Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours de Frère Monson, le chœur chantera « Dieu veille nous garder, notre prophète bien-aimé. » Et après le cantique, Bruce C. Hafen, des 70, fera la prière de clôture. La prochaine conférence aura lieu dans 6 mois. Président Monson.
I've been attending conferences for a long time.
J'ai assisté à des conférences depuis très longtemps. Je crois n'avoir jamais été autant enrichi par les messages. Vous avez eu des messages qui sont venus de nombreux orateurs. Et chacun a traité d'un sujet important. Il y a eu aujourd'hui un débordement de foi, d'amour, de conseils. Prenons-les en compte dans notre vie. Brother Ballard, ma chère épouse est allée à l'hôpital il n'y a pas très longtemps. Elle a laissé une petite note pour les enfants. Les enfants, ne laissez pas papa toucher au micro-ondes.
Followed by a comma.
Suivi d'une virgule. Ou le four.
Or the dishwasher.
Ou le lave-vaisselle.
Or the dryer.
Ou le sèche-linge.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Je suis embarrassé qu'il y avait d'autres choses à ajouter à cette liste.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience.
Je pense que c'est Frère Uchtdorf que vous avez dit à l'assistance aujourd'hui, en parlant de l'héritage que vous avez du côté de votre mère et de votre côté de votre père. Et j'aimerais terminer avec quelques mots en parlant du côté de mon père. De mes ancêtres paternels, ils sont venus de Suède et d'Angleterre. Avant qu'il ne se marie, il a attendu que ma grand-mère puisse grandir. Après, il lui a demandé un mariage et ils sont mariés au temple de Salt Lake. C'est dans ce temple aussi que ma femme et moi avons été mariés pour le temps et l'éternité. Je suis heureux. Deux semaines après avoir été mariés, il a écrit que son évêque lui avait demandé de repartir en Suède pour 2 ans, après seulement 14 jours de mariage. Et son épouse l'a soutenu et il est reparti en Suède. Dans son journal, il écrivait souvent « Mes pieds sont mouillés, mes pieds sont mouillés ». Mais ce qu'il a écrit le plus remarquable dans son journal est venu d'un oncle qui, en fait, a été choisi par lui pour recevoir son journal. Nous sommes allés à la maison de Hansen et nous avons rencontré Sœur Janssen. Elle nous a fait un bon repas. Elle est une excellente cuisinière. Et alors, il a dit, les enfants ont tous chanté. On a joué l'harmonica et on a dansé un petit peu. Et alors, elle a payé la dîme. 5 couronnes pour le Seigneur. Et encore une couronne pour mon compagnon et une pour moi. Après, il y avait une liste du nom des enfants. Quand j'ai lu cela dans le journal, il y avait le nom du mari, du papa de ma femme. Et il y avait aussi le nom donc du père de Francis, de mon épouse. Je suis allé une fois chez elle et elle m'a présenté en fait à son père et son père m'a dit, Monson, c'est un nom suédois, n'est-ce pas? Il m'a dit, c'est bien. Alors il a sorti une photo qu'il avait sur son bureau où il y avait 2 missionnaires avec un chapeau et leur copie du livre de Mormon. Il a dit, est-ce que vous êtes en parenté avec ce Monson? J'ai dit oui, c'est le frère de mon grand-père. Lui aussi a servi une mission en Suède. Et le père a pleuré. Il a dit, lui et son compagnon ont été les missionnaires qui m'ont enseigné l'Évangile, qui ont enseigné l'Évangile à ma mère et à mon père.
et à tous mes frères et sœurs, et aussi à moi. Alors il m'a embrassé sur la joue, et sa mère a commencé à pleuvoir, et elle m'a embrassé sur l'autre joue. Et j'ai cherché Francis du regard.
And then she said, I'll go
et elle a
get
dit,
my coat.
Je vais chercher mon manteau.
My sweet Francis.
Ma chère Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Un automne particulièrement difficile. Elle est allée à l'hôpital. Pendant 27 jours, elle est restée dans le coma. Je suis resté à ses côtés. Ses enfants ont pleuré, ses petits-enfants ont pleuré, et j'ai pleuré. Pas un seul mouvement. Et un jour, elle a ouvert les yeux. Je suis arrivé très vite à ses côtés. Et je lui ai fait un bisou. Et je l'ai prise dans mes bras. Et je lui ai dit, tu es de retour, je t'aime. Elle m'a dit, je t'aime aussi, Tom. Mais nous en avons un gros souci. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais à propos des soucis, Francis? Je lui ai dit, oh, j'ai oublié d'envoyer le dernier tiers de paiement pour nos impôts. Je lui ai dit, Francis, si tu m'avais dit cela, avant que tu m'aies fait un bisou et que tu m'aies dit que tu m'aimes, peut-être que je serais reparti. Mes frères, traitons notre épouse avec dignité et avec respect. Elles sont nos compagnes éternelles. Sœurs, honorez votre mari. Ils ont besoin d'entendre vos bonnes paroles. Ils ont besoin de voir vos bons sourires et une expression sincère d'amour. En laissant ma propre famille pour un moment, mes frères et sœurs, nous avons eu une très belle conférence. Nous avons été édifiés par des messages inspirés et empreints de sagesse. Notre témoignage a été fortifié. Je crois que nous sommes tous plus déterminés à vivre les principes de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons été non seulement bénis par les beaux discours qui ont été prononcés, mais également édifiés par la belle musique qui a été interprétée. Nous sommes abondamment bénis dans l'Église par les gens qui nous font profiter de leurs talents musicaux. Chaque chœur et chaque chorale s'est produit magnifiquement bien au cours des deux derniers jours. J'aimerais exprimer mon amour à toutes les personnes qui ont participé et à vous tous qui avez écouté. J'ai ressenti vos prières en ma faveur et j'ai été soutenu et béni au cours des deux derniers mois depuis que notre cher président Hinckley nous a quittés. Encore une fois, je vous remercie de votre vote de soutien. Les mots me manquent pour exprimer comme je voudrais ma gratitude pour le rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours et pour ce qu'il a signifié dans ma vie. Chacun de nous a été influencé et façonné en suivant le Sauveur et en adhérant aux principes de son Évangile. À vous, parents, je dis, montrez à vos enfants que vous les aimez. Vous savez que vous les aimez, mais assurez-vous qu'ils le sachent aussi. Ils sont si précieux. Faites-le leur savoir. Demandez l'aide de notre Père Céleste dans vos efforts pour répondre à leurs besoins chaque jour et pour faire face aux difficultés que rencontrent inévitablement les parents. Il vous faut plus que votre sagesse personnelle pour les élever. Nous félicitons nos merveilleux jeunes qui résistent à l'iniquité du monde et qui obéissent de leur mieux au commandement. À vous qui pouvez aller au temple, je vous recommande de le faire souvent. Cela contribuera à fortifier les mariages et les familles. Soyons gentils les uns envers les autres. Soyons conscients des besoins les uns des autres et aidons-nous à les satisfaire. Mes chers frères et sœurs, Je vous aime et je prie pour vous. S'il vous plaît, priez pour moi et ensemble, nous récolterons les bénédictions que Père Céleste a pour chacun de nous. Ceci est ma prière, ma demande, quand j'ajoute mon témoignage que cette œuvre est vraie, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven, our hearts are full.
Notre Père céleste, nos cœurs sont remplis d'avoir été témoins oculaires en voyant le pouvoir de l'agneau descendre sur ton prophète et de voir le manteau prophétique descendre sur ses épaules. S'il te plaît, bénis-le ainsi que ses conseillers. Et avec tout l'amour et la compassion que nous avons ressenti aujourd'hui, pour que cela puisse nous renforcer, bénis-nous afin que cela nous aide à continuer ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Vous venez d'assister à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.